Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers fidèles, nous venons d'entendre le récit du miracle de notre Seigneur multipliant quelques pains pour nourrir une si grande multitude, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Un autre prodige de multiplication, quoique accompli sur une échelle moins étendue, s'est produit du temps de cinq curés d'Ars devant ses propres yeux. C'était en 1834, l'année d'une grande sécheresse. Un jour, le pain vint à manquer à l'orphelinat fondé par notre saint, et il ne restait plus qu'une très petite quantité de farine. Par contre, les 80 personnes de l'établissement ne manquaient pas d'appétit. À Ars, il n'y avait pas de boulanger qui pouvait fournir, sur le champ, le pain nécessaire. On prévient le curé qu'il n'y a plus de farine que pour 3 pains. À quoi il répond : mettez votre levain dans ce qui reste et puis fermez votre pétrin. Demain faites comme d'habitude. Or, le lendemain, en effet, quand la boulangère de l'orphelinat met la main à la pâte, elle la sent frémir et monter sous ses doigts. Elle y met et remet de l'eau, et plus elle en met, plus la pâte gonfle, et gonflant devient épaisse. Si bien que le pétrin, en un moment, se trouve comblé jusqu'au bord, comme les jours où l'on mettait un grand sac de farine. La boulangère arrête, déjà la pâte traînait jusqu'à terre. On a fait 10 gros pains, pesant chacun 10 kilos. Si l'on veut une comparaison, le grand pain que notre frère boulanger cuit chaque semaine ne pèse au maximum que 4 kilos. Voilà pour le miracle, il y en avait beaucoup, beaucoup d'autres, de l'orphelinat de Saint-Curé d'Ars qu'il nomma Providence. Parlons donc de la Providence, la même qui a accompli les deux miracles de multiplication, celui de notre Seigneur et de Saint Jean-Marie Vianney. Nous allons répondre juste à deux questions. Qu'est-ce que c'est cette providence? Comment s'exerce-t-elle? Quel est son rôle? Et deuxièmement, quel est notre rôle vis-à-vis de cette providence? Aurions-nous peut-être quelques devoirs envers elle? D'abord, qu'est-ce que la providence? C'est la sagesse, la bonté et la puissance de Dieu s'exerçant sur ses créatures pour les conserver et les conduire à leur fin, au but pour lequel elles ont été créées. Traitons de la volonté de Dieu. Saint Thomas d'Aquin enseigne quelle est cette volonté divine, la raison, la cause de tout ce qui existe. C'est ce que nous lisons dans le psaume 134. Le Seigneur a fait tout ce qu'il a voulu, au ciel, sur la terre, dans la mer et dans les abîmes. C'est donc la volonté divine qui a tiré du néant toutes les créatures, visibles et invisibles, vivantes et inanimées, raisonnables et privées de raison, depuis la plus élevée jusqu'à la plus infime. Or, si le bon Dieu a produit toutes ces choses, il est juste, raisonnable et même absolument nécessaire qu'elles soient conservées et gouvernées par lui. Une boule retenue par un fil tombe aussitôt qu'on lâche le fil. Et le monde entier retomberait dans le néant si Dieu ne le conservait pas par sa puissance. Pour assurer leur conservation, Dieu donne aux créatures ce qui est nécessaire à leur existence. Revenons au miracle de multiplication des pains, raconté dans notre évangile de ce dimanche. Ce prodige se répète en fait chaque année dans les champs. Un grain en produit une centaine d'autres, et une petite pomme de terre en produit une douzaine de plus grosses qu'elle. Les miracles sont de tous les jours, dit saint Augustin, mais par leur fréquence, ils ne font plus d'impression sur nous. Dieu conserve le monde, Dieu aussi le gouverne, c'est-à-dire, il dirige toutes choses de façon à les faire servir à sa gloire et à notre utilité. Dieu règle donc tous les événements, bons et mauvais. Rien ne se passe dans l'univers que Dieu ne le veuille ou qu'il ne le permette. Tout ce qui nous arrive ici-bas contre notre volonté, dit saint Augustin, que ce soit de la part des hommes ou d'ailleurs, ne nous arrive que par la volonté de Dieu, par les dispositions de la Providence, par ses ordres et sous sa direction. Mais, quelqu'un pourrait objecter. Comment Dieu peut-il vouloir ou permettre les événements mauvais? On peut encore le comprendre dans le cas de la maladie, de la mort, du froid, du chaud et autres accidents produits par des causes naturelles dépourvues de liberté. Mais pour la libre volonté de l'homme, on a beaucoup du mal à comprendre. Car si quelqu'un parle mal de moi, s'il me frappe, me persécute, comment puis-je attribuer cette conduite à la volonté de Dieu? Comment peut-il vouloir et prendre part au péché, lui étant la sainteté même? En effet, Dieu n'est pas et ne peut pas être l'auteur du péché. Cela mérite une explication. Distinguons dans le péché deux parts, l'une naturelle, l'autre morale. Et regardons l'homme qui nous lance les injures. Il y a là le mouvement de la langue qui nous injurie et le mouvement de la volonté qui s'écarte de la droite raison et de la loi de Dieu. Mais l'acte physique de la langue, comme toutes les choses naturelles, est fort bon en lui-même. Et rien n'empêche qu'il ne soit produit avec et par le concours de Dieu. Ce qui est mauvais, ce à quoi Dieu ne saurait concourir et dont il ne peut être l'auteur, c'est l'intention. L'intention défectueuse, l'intention déréglée qu'apporte à ce même acte la volonté de l'homme. Si donc on nous offense, ce mouvement de la langue n'est pas un péché. Dieu peut très bien en être l'auteur, car l'homme n'a l'existence ni le mouvement de lui-même, mais de Dieu, qui agit en lui et par lui. Car c'est en Dieu, dit saint Paul, que nous avons la vie le mouvement et l'être. Quant à la malice de l'intention et de ce qui est dit, cela est tout de l'homme. Et c'est là seulement que se trouve le péché, auquel Dieu ne prend aucune part, mais qu'il permet toutefois pour ne pas porter atteinte au libre arbitre de l'homme. Dieu a créé l'homme comment ? Il a créé libre. Et si l'homme n'avait pas le choix entre le bien et le mal, mais était forcé de faire le bien comme une machine, il serait incapable de récompense. Le péché et ses suites ne viennent donc pas de Dieu, comme proclama le Concile de Trente, mais de l'abus de notre liberté. Nous allons voir dans quelques secondes pourquoi Dieu permet le mal. Pour le moment, nous constatons seulement qu'il peut le faire, qu'il peut y donner le feu vert. Nous avons dit que Dieu règle tous les événements, bons et mauvais, ajoutant qu'il le fait avec une suprême sagesse. De cette sagesse, nous lisons dans le livre de Sagesse qu'elle atteint d'une extrémité à l'autre avec force et elle dispose toutes choses avec douceur. Elle gouverne les hommes avec un ordre admirable. Elle les conduit à leur bonheur fortement, mais pourtant sans violence et sans contrainte, avec suavité, mais encore avec discrétion. Nous devons donc, dit saint Basile, nous bien pénétrer de cette pensée que nous sommes l'ouvrage du bon ouvrier et qu'il nous dispense et nous distribue, avec une prudence très sage, toutes choses grandes et petites, en sorte que rien ne soit mauvais, rien même que l'on puisse concevoir meilleur. Dieu Tout-Puissant nous traite avec une extrême condescendance. Il s'accommode à notre faible nature, place chacun de nous dans la situation la plus convenable et la plus propre à nous faire opérer notre salut. Il agit envers nous avec la même prudence que l'on met à toucher un riche vase de cristal que l'on craint de briser. Faut-il, pour notre bien, nous affliger, nous envoyer quelques maladies, nous faire subir quelques pertes? C'est toujours avec certains égards qu'il y procède. Et nous arrivons ainsi, chers fidèles, à ce qui est le plus fondamental dans la question de la providence, providence qui permet le mal, c'est que si Dieu tolère le mal dans le monde, c'est parce qu'il est assez puissant pour en retirer le bien. Pour le prouver, on pourrait donner de nombreux exemples. Dieu a procuré la rédemption du monde par la trahison de Judas. Les gardes mis au tombeau de notre Seigneur ont fait éclater la grandeur du miracle de sa résurrection. L'incrédulité de Thomas nous est plus utile que la foi des autres apôtres, etc. Dieu ainsi préfère tirer le bien du mal, disait saint Augustin, que de ne pas permettre le mal. Dieu est père et médecin. Quand un père remarque des défauts dans l'enfant qu'il aime, il le punit pour le faire perdre ses mauvaises habitudes. Dieu aussi. Il éprouve souvent ceux qu'il aime en leur envoyant des souffrances et de revers pour les purifier de leurs imperfections. Quand un médecin voit qu'il peut sauver son patient, il lui fait prendre des médicaments et le soumet à la diète. S'il voit, au contraire, que la maladie est incurable, il permet au malade de manger ce qu'il veut. Dieu agit de même. Si le pécheur peut encore être sauvé, il lui envoie des maux, des souffrances, pour le faire se détacher des joies de la terre en les rendant amères. Mais si le pécheur ne veut pas se corriger, Dieu le laisse profiter de ses joies. Mais ce sera, hélas, pour son malheur éternel. Dieu est père, médecin, parfois même le sculpteur. Et nous, dans ce cas-là, un bloc de marbre entre ses mains. Il faut que le sculpteur fasse sauter les éclats, qu'il taille, qu'il polisse, pour tirer de son bloc une belle statue. Dieu veut faire de nous sa vivante image. Pensons seulement à bien nous tenir entre ses mains pendant qu'il travaille sur nous, et soyons assurés qu'il ne donnera pas le moindre coup de ciseau qui ne tende à nous sanctifier. Car, comme dit saint Paul, la volonté de Dieu, c'est notre sanctification. Ainsi nous savons, chers fidèles, ce que nous devons répondre à ce que nous demande la divine providence, c'est de nous y abandonner avec confiance. Jésus-Christ nous a bien appris à dire à Dieu dans notre prière « Que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel ». Et saint Pierre nous exhorte à jeter toutes nos inquiétudes dans le sein de Dieu parce qu'il a soin de nous. D'abord, nous ne devons pas nous attrister, nous agiter pour des choses insignifiantes. Par exemple, parce qu'il fait trop chaud ou trop froid. Il faut surtout nous résigner à la volonté de Dieu dans les événements que nous ne pouvons pas changer. Les maladies, les revers de la fortune, la mort de nos parents, les persécutions, etc. Mais par-dessus tout, il faut nous résigner à notre propre mort. Laissons-nous donc, écrivit le père Maximilien Marie Kolbe, laissons-nous conduire dans le calme et la confiance par la miséricorde divine à travers l'Immaculée. En du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.